Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Bonjour à tous et bon dimanche matin. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accompagner comme d'habitude tous les week-ends de 9h à midi. Les grandes gueules du sport. Lendemain, on a un peu la gueule de bois. On a un peu la gueule de bois ce matin après la défaite du 15 de France encore une fois contre les Springboks au Stade de France hier 32-17. On va largement revenir là-dessus dans l'émission aujourd'hui. Les grandes gueules du sport autour de la table. N'arrête jamais, il était au bout de la nuit, aux commentaires sur RMC. Christophe Cessieu est là, salut Christophe.
Bonjour, bonjour.
Petits yeux.
Petits yeux, petit moral surtout.
Petit moral.
Ah, petit moral, ouais.
Ouais. Bon. Ouais. T'es encore heureux, quoi.
Ça ne change pas champion du monde tout de suite. Quoi.
Ah, ouais, déjà.
Ah, ouais, ouais.
Voilà, c'est plus
j'y crois
petit...
plus, moi.
C'est plus qu'un petit moral, c'est une dépression, là, carrément. Le retour de Philippe Saint-André autour de la table des GG du sport. Salut Philippe.
Salut, bonjour à tous.
Ça va?
Ben, ça va, oui. Ouais. Même si la nuit a été courte.
Oui, mais elle n'a pas été courte pour la même manière. Ouais. Monsieur était dans les salons à boire du champagne.
Et des petits fours.
Non, mais en plus, un week-end où Provence Rugby.
Voilà.
Vous avez rappelé que
mon week-end était meilleur que.
Sarah Pitkowski est là. Salut Sarah.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Ça a passé une bonne semaine. Il paraît que tu nous as écouté hier.
Mais tu sais quoi, quand je ne suis pas à l'antenne le week-end, je vais courir et mon plaisir, c'est de vous écouter en courant. Alors, des fois, quand ça m'énerve,
tu cours
plus
3 heures.
Non, je cours pas. Non, pour 1h30, tu vois.
Ah, c'est bien.
Ouais.
Et tu choisis plutôt le début ou la fin de l'émission?
Je commence vers 9h15, 9h30.
D'accord.
Mais alors, quand vous m'énervez, je cours plus vite.
Ah ouais.
C'est bien.
Donc, ils t'ont énervé hier ou quoi?
Sur certains débats, oui, tu vas. Tu dis, mais non, mais moi, j'aurais pas dit
d'accord.
Ça.
Ça veut dire qu'on te pousse à la performance. Donc, c'est pas
ça.
Mal.
Ouais. C'est ça, on peut dire ça comme
peut-être
ça.
Peut-être que tous les sportifs français écoutent les grandes gueules du sport. Je sais pas si on les énerve, on va peut-être les amener très haut. Marc Madiot est là. Salut Marc.
Salut.
Marc a passé les derniers jour très agréable.
Je vous ai pas écouté.
Ça passe pas la radio en Mayenne.
Si, mais j'étais studieux, j'étais en stage.
Il était en stage.
J'étais en stage.
Ouais, ouais.
En Espagne.
Comment?
En Espagne?
Non, à côté de Laval.
Ah ouais. Ah oui, d'accord. Un stage que je qualifierais de rattrapage. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Marc Madiot peut désormais conduire de manière tout à fait sereine.
Bien mieux au club, j'en ai fait quelques-uns aussi.
Non, c'est mon premier.
T'as récupéré combien? 4 points?
J'ai récupéré 4 points.
Ouais. Ouais. Jérôme Pinot aussi, je pense que c'est un truc de coureur cycliste.
Ouais, moi j'en ai fait 4. Hein.
Non, c'était très sympa. D'ailleurs, je salue tous mes collègues de stage qui étaient à Bonchamp-les-Laval et je salue l'auto-école.
De Bonchamp. Il y a Marc Madiot qui arrive. Déjà, c'est une idole dans toute la Mayenne. Il y a un tapis rouge à l'entrée. Il y a le maire qui est venu le féliciter. Vous aurez même 10 points. Voilà. 10 points à la fin du stage.
J'imagine faire un speech et tout. Allez, les gars, on récupère des points ensemble. Ensemble. Bon. Ce qui est bien, c'est que tu es clean ce matin.
Nickel.
Voilà, t'es nickel.
T'es venu en voiture ou pas?
Je suis venu en voiture et j'ai regardé le match
avec attention. Et on va beaucoup en parler ce matin. Donc, de la défaite des Bleus face aux Box, 32-17. On va également parler football à 10h sur le ring. Choc entre Lyon et le PSG ce soir à 20h45 sur RMC en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG fait-il moins peur que la saison passée? Votez sur le compte X des GG du sport. Grosse page F1, Grand Prix du Brésil à 18h à suivre sur notre antenne. Verstappen a-t-il dit adieu au titre, il partira 16e, loin derrière le leader du championnat Lando Norris en pôle. Et puis à 11h sur le vestiaire, on va parler du rapport entre entraîneur et entraîné, la relation affective importante parfois. Et puis dans les jeux du sport, en fin d'émission, participez avec vos GG pour remporter votre maillot rugby sport d'époque fabriqué en France. Philippe, tu peux gagner aujourd'hui le maillot France 1958, celui de la première tournée victorieuse des Bleus en Afrique
du
Sud.
Mais il l'a peut-être déjà.
1958.
Il doit peser 15 kilos.
Et en coton bien lourd.
Déjà, quand il mouillait 5 ans.
Parce que j'ai amené un maillot à un collectionneur des Barbarians 95. Quand je l'ai amené, il pesait une tonne. C'est incroyable par rapport au maillot maintenant. Tu vois même l'évolution là-dessus.
Un bon maillot bien mouillé.
Les maillots jaunes à l'époque étaient
en l'air. Le maillot jaune et le maillot vert de Cyril Guimard, déjà ça gratte en plus. Je ne sais pas comment vous faisiez, mais ça grattait.
Pour remporter ce fabuleux maillot, hein. France 1958, sport d'époque, appelé le 32-16, touche 4, ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16 pour participer donc au jeu du sport. On va découvrir Philippe dans les jeux tout à l'heure. On va voir s'il est au niveau. 32-16 pour participer au débat. Notre WhatsApp 06-12-424-424. Mais d'abord donc, le 15 de France n'a pas tenu la distance.
La une des grandes gueules du sport.
Les maudits Springboks sont de retour, il faut régler des comptes, c'est parti. Le coup de pied à suivre peut-être pour Damien Penaud. Allez Damien, le rond, Damien Penaud qui bat le record de Serge Blanco à la quatrième minute. Thomas Ramos qui accélère, Thomas Ramos qui
sert
Penaud, laissez
le Penaud, le doublé.
Deuxième essai des Bleus. Le départ de Reynac, attention. Oh là là. Il est percé. Kobus Reynac.
Essai de Reynac.
L'essai se l'est fait tout seul. Ah oui. L'ancien Montpellier. Un point d'avance. Un 6 points d'avance pour l'équipe de France. 14 à 13.
Ah oui, le coup d'épaule du 5 à la tête de Jäger.
Sur Thomas Ramos.
Il peut y avoir un carton.
Il est rouge. Eh oui, monsieur
Jäger. Carton rouge à la tête de Jäger.
Allez, vous allez réfléchir un peu.
Terminé à 14. Le ballon qui avance. Le ballon porté qui avance. Qui est bien. Malcolm Marx qui va le prendre au fond. Il a quelques centimètres. Et on y est presque. Essai d'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud à 14 contre 15 va prendre l'avantage. 18-17 avant la transformation. Le ballon sort avec Grant Williams qui a percé. Il est passé.
Essai de Grant Williams.
Feinberg qui a pris l'extérieur. Feinberg qui va aller lutter.
Et il va aller quel joueur
Ndombé Zulu qui va marquer le quatrième essai de l'Afrique du Sud. C'est terminé. Large victoire de l'Afrique du Sud ce soir au Stade de France. Victoire 32-17 des Box face à la France.
Aïe. Comme il y a deux ans, en quart de finale de Coupe du Monde, l'Afrique du Sud a terrassé le 15 de France au Stade de France pour le premier match de la tournée d'automne. Mais cette fois-ci, l'écart n'est pas d'un point, mais de 15. 17-32 score final, alors que les Box ont été en infériorité numérique pendant pratiquement toute la deuxième période. Les Sud-Africains ont inscrit deux essais dans les 10 dernières minutes du match. Une claque pour les Bleus de Fabien Galthié. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, cette défaite est-elle humiliante pour les Bleus? Philippe Saint-André.
Oui.
Christophe Cessieux.
Pas humiliante, décourageante.
Marc Madio.
Non, mais compliqué quand même.
Sarah.
Bah, humiliante aussi, ouais. Pour moi.
Allez, on a deux oui, deux non. On vous attend au 32-16, WhatsApp, donc 06-12-424-424. Wilfried Templier a-t-il récupéré sa voix? C'est la question que l'on se pose. Il était au commentaire hier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut
Wilfried. Ah oui, c'est vrai. Ah, il chuchote pas, Wilfried, ça je peux vous le dire.
Ça, quand tu l'as à côté de toi, à 10 cm de ton oreille pendant une heure, t'as perdu l'audition, quoi.
Ah, c'est pour ça que tu m'en parles.
J'allais faire un stage, moi, pour récupérer des points.
Wilfried, raconte-nous l'après-match auprès des Bleus. Ils étaient comment après cette claque?
Bah, un peu groggy, bah, évidemment, de par le combat hein, qu'il venait de livrer déjà sur le terrain. Mais il semblait pas complètement comprendre ce qui s'était passé. Pour le talonneur Julien Marchand, tout n'est pas à jeter dans la prestation des Bleus.
Le score est lourd à la fin, mais après, il est logique aussi, puisqu'ils ont joué leur match pendant 80 minutes à bloc. Évidemment que nous, on était motivés, on avait bien évidemment envie de gagner. On n'a pas réussi à transformer quelques bonnes phases en seconde mi-temps au début. Il n'y a pas trop de mots à dire, il faut rebosser, mais quand on rentre dans les vestiaires, on est tous, et quand on ressort, on est tous prêts à repartir pour gagner ce match. Avec le public qu'il y avait, qui était incroyable, et nous, l'état d'esprit qu'on avait, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux ce soir, mais on avait une très grosse équipe aussi en face qui nous a posé beaucoup de problèmes. On va se servir de ça pour rebosser pour les semaines d'après.
Et à son image, en fait, tous les joueurs qui sont venus devant les micros ont réfuté un peu l'idée que c'était un coup de massue pour les Bleus, un peu dans une sorte de déni, nous c'est ce qu'on se disait en face, sans savoir si ça faisait partie d'éléments de langage ou s'ils en étaient vraiment convaincus. Le deuxième ligne, Thibaut Flamand, le semble, lui, convaincu en tout cas.
Je pense qu'évidemment c'est frustrant de sentir le match nous glisser entre les doigts, parce que je pense qu'on domine vraiment cette première mi-temps, on prend un essai en fin de mi-temps qui nous coûte un peu cher, mais globalement je trouve qu'on est largement au-dessus, et du coup ouais, c'est plus de la frustration de sentir ce match nous filer entre les doigts en fait.
Il faut lever la tête, en fait, ne pas dire on s'est fait passer dessus sur les 80 minutes, parce que les Box nous ont rappelé qu'un match de rugby, c'est cette durée, 80 minutes. Et parce qu'il reste deux matchs aussi dans cette tournée contre les Fidji et l'Australie, le capitaine Gaël Ficou promet de s'en remettre.
Forcément, on est très déçus ce soir, on va pas se mentir. On espérait mieux, mais de là à dire qu'on va baisser la tête, ça c'est hors de question. Donc au contraire, on a encore deux gros challenges à relever. Ça serait inacceptable de baisser la tête, donc on va aller de l'avant. C'est un match de préparation aussi, bien sûr, qui nous tenait à cœur. Bien sûr qu'on avait à cœur de gagner ce match. Ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus réalistes que nous. Et on va se préparer jusqu'à la Coupe du Monde pour les rejouer, mais on baissera pas la tête, ça c'est sûr.
On est au moins sûr d'une chose, quand on voit ces box, bah, pour devenir champion du monde d'ici 2 ans, il y a du boulot.
Ah, il y a du boulot, effectivement. Merci Wilfried de nous avoir raconté ce qui s'est passé dans la coulisse hier. Très intéressant d'écouter les joueurs du 15 de France sur leur ressenti après cette rencontre. Donc perdu 17-32. Philippe, tu dis que c'est une défaite humiliante. Pourquoi ?
Ben, après, je m'y connais hein, en défaite humiliante. Donc,
alors... Je pensais que tu allais dire je m'y connais en rugby, non, mais non, ça, mais... on en doutait
non.
pas.
Moi, ce qui me pose problème, c'est que ils prennent un carton rouge. C'est-à-dire que ils sont à 14 contre 15 à la 39e minute. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas existé. On n'a pas existé dans le combat. On a été pris en mêlée. On a été pris en touche. On a été pris dans les duels aériens. Moi, j'étais au stade aussi. On avait même l'impression que les Sud-Africains étaient plus nombreux que nous, alors qu'ils étaient 14 contre 15. Et que notre banc, qui normalement on a des bons joueurs, notre banc a, surtout devant n'a rien apporté. On aurait dû espérer, voilà, que quand Fabien Galthié a fait son changement devant, on ait encore plus d'énergie et ça n'a pas été le cas. En touche, pourtant on était on avait un joueur supplémentaire, on n'était jamais sur les zones de saut. Jamais on n'a pu les perturber au niveau de leur lancement. Alors après, ils ont une génération incroyable. C'est la meilleure équipe du monde actuellement. Mais, humiliant, le mot est peut-être fort. Mais je pense que Fabien Galthié, là, a mal à la tête. Parce que la première mi-temps, elle est belle. Tu marques deux essais de qualité. Parler de Cam de Penon, hein, qui vient de
dépasser
un monstre sacré.
40 essais désormais, il est le meilleur marqueur de l'histoire.
Qui est Serge Blanco, mais sinon on a été pris. Puis en plus on sait, quand tu joues les Sud-Africains, il faut être présent en conquête, présent sur les duels aériens. Et sur les duels aériens, on a été encore becquetés. Puis aussi la qualité de leur jeu au pied. J'avais l'impression que leur jeu au pied était plus long, plus haut.
C'est pas une impression, hein, Philippe.
Ouais, non, mais plus long, plus haut que les nôtres, plus précis que les nôtres. Et pourtant, tu as Ramos qui est peut-être un des meilleurs joueurs au pied du monde. Mais sincèrement, j'avais vraiment l'impression que voilà, qu'on était en face d'un mur et qu'on n'avait aucune solution. Et à 15 contre 14, c'est là où ça me pose problème.
C'est un peu humiliant, effectivement, le fait qu'on sente qu'il y a une supériorité évidente, en fait, malgré l'infériorité numérique. Chris, toi, t'étais au stade aussi.
Ouais, mais t'es d'accord avec l'analyse. Pour moi, c'est pas ça les défaites humiliantes. Philippe en parlait en introduction. Il en a connu. Moi, je me souviens un des premiers matchs que j'ai commenté, c'est un France-Afrique du Sud au Parc des Princes en 97.
Ça a été mon dernier match.
Ça a été ton dernier match. T'as fermé la lumière et tout le monde est parti. Là, tu t'étais ressorti du stade. Tu regardais tes chaussures. T'avais pas honte d'être français, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais là, il y avait beaucoup d'attentes, quand même, Christophe. Il y avait une réaction attendue.
Elle est pas sur les 80 minutes.
Quand t'as 4 points d'avance à 20 minutes de la fin, c'est pas une défaite humiliante. Pour moi, c'est une défaite décourageante. C'est-à-dire que on y croyait quand même quelque peu, et on se rend compte que d'abord, tant qu'on n'aura pas appris à récupérer des ballons hauts, eh ben, on n'existera pas, parce que les box, ils savent très bien que c'est notre point faible, et ils vont continuer de nous mettre ça, et que tant qu'on récupérera pas au moins 5-6 ballons dans un match, mais là on en a perdu 30.
Mais 30, bah oui, mais 30 mais ballons perdus. C'est là la partie humiliante, c'est qu'il y a deux ans, ils te becquent là-dessus, oui. Et là de nouveau,
ils refont pareil,
et tu es encore plus. T'es encore plus becqueté qu'il y a deux ans.
Mais c'est pas pour ça que c'est humiliant.
Oui, en fait, tu dis est-ce qu'on a pas régressé presque.
J'ai l'impression de régresser, qu'on a régressé personnellement.
Après, il manque beaucoup de joueurs. Il faut rappeler, il manquait Dupont, il manquait Movaca, il manquait Baye.
La régression s'explique aussi par le fait que pendant la Coupe du Monde, tu te prépares pendant des mois, donc t'arrives à rattraper le retard et t'arrives à récupérer la fraîcheur que tu n'as pas là, parce que là t'as pas de fraîcheur, t'as beaucoup de joueurs absents et tu te rends compte que la réserve, et notamment au poste de pilier, elle n'est pas là. On n'est pas invité à ce niveau-là.
Christophe, sur la fraîcheur, tu ne peux pas dire ça.
Ils sont en début de saison.
Nous, on est en début de saison. Eux, ils sont en fin de saison. Donc, la fraîcheur, normalement, c'est à partir du 6 nations.
On a joué 9 matchs de suite, Philippe. Il y a eu 9 journées de top 14. Là, je ne suis pas d'accord avec toi.
Non, mais il y a eu 9 journées de top 14. Non, mais il y a eu 9 journées de top 14. Mais ils n'ont pas joué avant le test de novembre, quand même.
Ouais, mais les box, ils jouent pas. Enfin, c'est un autre débat après, mais on sera jamais champion du monde si on sanctuarise pas 30 mecs à préserver sur une saison. Ils jouent depuis 4 mois ensemble. Rassi Rasmus, ils gèrent toute l'année le temps de jeu de ces joueurs. C'est pas que ça, hein.
Attention, alors là, on va sur un autre débat où l'entraîneur sud-africain est assez exceptionnel. C'est qu'il leur a dit, maintenant, vous jouez plus en France, vous jouez plus en Angleterre, les Sud-Africains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au Japon, ils jouent 7-8 matchs.
C'est lui qui décide.
Ouais, mais Philippe, il y a presque quelque chose d'humiliant aussi là-dessus aussi. C'est-à-dire que leur modèle est meilleur que le nôtre pour en tout cas être performant au plus haut niveau, peut-être, et aborder ces matchs-là de la meilleure des façons.
Ils ont quatre titres de champion du monde, un pas un.
On a écouté que Christophe et Philippe pour l'instant, ça.
Pourquoi moi je me suis positionnée sur le humiliant? Parce que l'écart entre les deux, elle n'est pas abyssale quand tu vois le contenu du match. Et puis après, quand tu réduis comme une peau de chagrin, c'est-à-dire que tu mets dans l'entonnoir cette deuxième mi-temps, on ne va pas le répéter, où ils étaient 14 contre 15, tu marques 3 points. Tu marques 3 points dans une deuxième mi-temps où tu es en supériorité numérique. Il y a quelque chose d'humiliant là-dedans. Et quand tu prends 3 essais en 15 minutes... Il y a quelque chose d'humiliant. Et pourtant,
les défaites sont humiliantes à ce niveau-là. À vous écouter, toutes les défaites sont humiliantes.
Non, Christophe, regardes la globalité du match.
Pour moi, ce n'est pas une défaite humiliante. Et
quand tu regardes la globalité du match, il n'y a pas un écart si abyssal que ça entre les deux. Cependant,
humiliant, c'est quand il y a un écart conséquent.
Oui, mais c'est le fond et la forme.
C'est le scénario du match qui nous fait nous poser cette question.
Et quand tu regardes de manière chirurgicale certains points, oui, c'est humiliant de se dire, et tu viens de le dire toi-même, ils ont régressé sur les ballons. On perd que d'un point en Coupe du Monde.
Là, on perd de 15 points. Et ils sont en infériorité numérique. Marc, on s'est posé la question aussi si le débat n'allait pas être les Bleus peuvent-ils s'en vouloir Les Bleus peuvent-ils s'en vouloir? Ou juste on est battu par des gars qui ont l'air plus forts?
J'ai trouvé que pendant à peu près une heure, ils ont été au niveau. Ils étaient opérationnels, ils étaient compétitifs. Et puis, à un moment, on a l'impression que le match bascule, qu'il y a une force collective, il y a un rouleau compresseur qui nous marche dessus progressivement et qui nous éteint totalement. Donc pour moi, c'est pas humiliant. Je pense que le problème, il est aussi physique. Il y a un déficit de volume et de force collective. Où nous Français on s'éteint et les autres montent d'un cran.
Ouais. On voit tous les changements d'ailleurs, on n'est plus invité.
C'est quand même un peu embêtant, mais c'est pas humiliant. En qualité de jeu pendant une heure, c'était plutôt sympa. Les deux premiers essais étaient magnifiques. Moi, l'entame du match était
fantastique,
pimpante, enthousiasmante. Ouais. Donc tout n'est pas à jeter, mais il y a quand même. Enfin, moi, je ressens. Je suis pas un grand spécialiste du rugby, mais ce qui m'ennuie, c'est le gros déficit physique qui est inéluctable quelque part dans ça.
Ce combat-là, on pouvait pas le gagner. Tu le sens assez rapidement.
Non, on se fait écrabouiller, marcher dessus, comme tu le disais tout à l'heure. On était à 15 contre 14 pendant plus de la moitié du match.
Et on s'en rend pas compte.
C'est quand même.
Surtout, je pense, il va y avoir un débat, c'est sur le banc. Nous, quand même, culturellement, on a une grosse mêlée aussi. La mêlée française, la culture de la mêlée est importante. Et à 8 contre 7 en deuxième mi-temps, on s'est fait plier.
On avait des bisous aussi dans la mêlée.
Les bisous ont commencé. C'est plutôt ceux qui sont rentrés qui n'ont pas été au niveau attendu. Alors après, par contre, où je suis d'accord avec toi, c'est que on a eu l'impression à la 50e, 60e minute d'une force collective, d'une vitesse d'exécution, d'une réactivité de la part des Sud-Africains.
Et puis d'une maîtrise mentale.
Mais moi j'ai l'impression que c'est inéluctable en fait.
Qui était impressionnant. Et en plus, c'est là où tu sens qu'ils sont très forts, c'est que normalement tu dois prendre les 3 points de pénalité.
On allait en parler.
Exactement ça.
Et eux, ils vont quand même en pénal touche, donc ils sont.
Oui, mais alors, en première mi-temps, en revanche, ils tapent, ils se rendent compte que leur buteur est quand même pas dans un grand soir, donc après ils changent de méthode aussi.
Non, mais en première mi-temps, ils étaient. Parce qu'aussi, les 2 ou 3 fois dans notre avancée, on marque 2 essais, on trouve des solutions. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit faut qu'on colle au score. Ils ont tenté des pénalités de 52 mètres. Tout à fait. Mais en deuxième mi-temps, ils jouaient tout le temps dans notre camp. On n'était jamais chez eux en deuxième mi-temps. Enfin,
ils étaient toujours chez eux.
Non, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on domine, on a la possession. On est dans leur camp.
Mais
c'est une domination stérile, on n'arrive pas à franchir la ligne.
Ouais, mais et puis beaucoup de fautes de main. On a fait beaucoup de fautes de main.
Encore une fois, j'appuie sur le côté humiliant, même si le mot est fort, mais c'est cette fin de match, en fait. Ils ne cherchent même pas les pénalités. Ils ont une telle sérénité que les mecs. Non mais c'est sûr, mais on va vous le planter les.
On est leur marionnette en fait. Et
exactement. Voilà,
on va jouer avec vous.
Tennis,
ils ont pris
le
dessus physiquement sur nous. Ouais.
C'est comme au tennis, t'arrives au troisième set et que t'as un mec qui dit bah tout meilleur, je vais pas faire l'effort de retourner. Moi avec mon service, je vais aller au tie break et je sais que je vais te tirer au tie break en fait.
Le pire c'est quand on sent devant l'écran de télévision que de toute façon on va pas pouvoir réagir.
Mais c'est ça en fait. On sent que c'est inéluctable. En fait, on sent que c'est inéluctable.
Tu vois que tu plonges, mais tu plonges quand même.
Ouais, mais ce qui est terrible c'est physiquement, mentalement, et puis ils donnent rien à bouffer, c'est-à-dire parce qu'ils jouent pas un ballon dans leur camp, ils te montent des quilles en permanence, ils te gagnent les duels aériens, et après ils te passent
et
dessus,
ils te martyrisent.
Moi j'ai une question pour vous, les spécialistes du rugby, est-ce que quand les 20 premières minutes où tu dis on aurait mérité, s'il n'y avait pas eu ces fautes de main du côté des Français, on aurait pu en planter au moins un minimum d'essais, est-ce que quand t'es dans les 20 dernières minutes toujours dans le camp adverse, t'as pas pris un coup derrière la tête quand t'as les mecs en face qui veulent pas tirer les pénalités, tu sais qu'ils sont en train d'appuyer pour te mettre la tête sous l'eau, est-ce que t'as pas aussi pris un coup derrière la tête et t'as dû, parce qu'on dit qu'on... On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réaction. On disait qu'ils avaient la tête sous l'eau, ils n'arrivaient plus.
Ils ne pouvaient plus physiquement.
Mais est-ce que t'as pas pris un coup au moral?
C'est pas un coup au moral où ils sont excellents, c'est dans le jeu sans ballon. C'est-à-dire la réactivité. Parce que...
Là, tu parles des Sudaf.
Oui, parce qu'on sait créer des situations. Bialbiaré qui perce en deuxième mi-temps, normalement en top 14. Mais même dans le 6 nations, on le retrouve derrière les poteaux. Mm-hmm. Mais là, même à 14 contre 15, ils récupèrent, ils reviennent, ils te prennent par la chaussure, il y en a un deuxième qui met une deuxième lane et qui te met un tampon et qui te fait dégueuler le ballon. Et sincèrement, moi en tant qu'entraîneur, après ce match hier, je me suis posé des questions parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de ligne de trois quarts. Il y avait l'ailier qui était en 10, il y avait le 10 qui était en 15. Ils avaient un fonctionnement qui était complètement déglingué. Mais tu trouvais aucune solution, non?
Mais tu te... quand t'es entraîneur, ça doit.
Non, mais je veux dire, je pense t'es démuni.
Alors du coup, Galtier, il perd un peu les moyens parce que je disais ce matin que pour éviter d'avoir une équipe d'Afrique du Sud différente en deuxième mi-temps, lui, il a coaché hyper tôt. Il a coaché à la 45e. Il a sorti un mec comme Marchand qui faisait un super match. Il a sorti Meafou qui était plutôt bon et il les a fait remplacer par des mecs qui n'avaient pas le même niveau. Alors qu'on est à la moitié du match, donc c'était en réaction parce que. Par rapport à ce que Erasmus pourrait faire derrière, il lui a encore une fois mangé le cerveau.
Mais on va en parler, tiens. Je crois qu'au 32-16, il y a quelques fans du 15 de France qui veulent parler notamment de Fabien Galtier et des choix peut-être du 15 de France hier soir. Merci Wilfried Templier. On va te laisser récupérer la tournée.
On en reparle dans le podcast Rugby entre les poteaux.
Exactement, évidemment. Ce lundi, évidemment.
Posez-vous cette question. A-t-on progressé depuis. Est-ce que l'écart n'a pas grandi entre les deux équipes depuis deux ans?
Mais on va se poser la question aussi dans quelques instants. Tiens, merci Wilfried. Évidemment, entre les podcasts, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast, votre podcast Rugby RMC. On revient avec les grandes gueules du sport et avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport avec la gueule de bois ce matin au lendemain de la défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud 32-17 au Stade de France avec Philippe Saint-André, avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Sarah Pitkowski. On s'est posé la question, est-ce une défaite humiliante pour le 15 de France? Il y a énormément d'appels au 32-16, on va vous prendre dans quelques instants, beaucoup de messages également sur notre WhatsApp au 06 12 424 424. JM qui me dit évidemment que cette défaite à domicile est humiliante. Martial qui me dit on perd d'un point avec des faits de jeu il y a un an, alors qu'hier on a été mangé à 15 contre 14. Donc malheureusement on a certainement régressé. Walid qui me dit j'attends avec impatience les réactions de Moscato demain évidemment dès 15h.
Le super Moscato Show. Il a attendu toute la semaine que la mêlée de l'équipe de France c'était le point fort.
Alors là il va être lancé comme un frelon.
Et d'ailleurs Adrien Aigouin,
on peut le rappeler sur le terrain.
Adrien Aigouin qui nous écoute m'a envoyé un message, il me dit stade décourageante pour aller dans le sens de Christophe Cessieux. 10 derniers matchs entre les deux équipes, 9-1 pour l'Afrique du Sud. Effectivement. Tiens, au 32-16, je vous le disais, on accueille Yann avec nous, supporter du 15 de France. Salut Yann.
Bonjour l'équipe.
Bonsoir, tu t'es pas couché depuis hier.
On n'a pas dormi.
Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, et je ne vais pas tout prendre ça comme excuse. Il y a quand même un fait d'arbitrage à la 65e minute de jeu, alors que les Bock mènent d'un point 18 à 17. Il y a quand même Malcolm Marx qui pose les mains au sol. Qui gratte le ballon sur Baudouin et on prend justement une pénalité. Mais je veux pas prendre ça comme
sur un 4 appuis, c'est ça.
Oui, je veux pas prendre ça comme. Moi, je pense que alors Christophe a été brillant pour une fois, je dirais. Et puis il a pas bégayé, donc il sera pas dans les vocaux de Suzanne.
Oh, t'inquiète, ils vont bien trouver les trucs. T'inquiète.
Mais je pense que t'as tout dit. Elle est humiliante, elle est décourageante. Et c'est vraiment une question que je voudrais poser à Philippe. En plus, Philippe. Il a une histoire avec l'Afrique du Sud. On va pas revenir dessus, hein. Mais il y a deux choses que je comprends pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux ans, on a perdu exactement pareil avec des chandelles et avec, en gros, pas de banc. Et surtout, moi, ce que je comprends pas, on a 67 millions de Français. On n'arrive pas à trouver quatre piliers, quatre deux droitiers, deux gauchers de niveau international. Et Erdosio et Montagne, ils ont fait à peu près, on va dire qu'ils ont première sélection.
Ils ont fait le job. Ils ont fait le job.
Mais après, moi, je suis supporter toulousain depuis 40 ans. Bon, Doudou Aldeguerri, je l'aime bien, mais c'est plus possible. Même au stade, et quand il rentre, il est fatigué. On voit, c'est pas possible. Il est fatigué. Et on a du mal. Et comment ça se fait que sur les skills, ces skills des chandelles, pourquoi les formateurs, pourquoi la direction, je sais pas s'il y a une direction technique nationale, pourquoi les cadres ne forment pas, pourquoi, alors c'est vrai que notre jeu au top 14, il y a peu de jeux sous les chandelles, mais on est plus mauvais que les Anglais, on est plus mauvais que les Blacks, plus mauvais que les Irlandais. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, deux piliers droits, deux piliers gauche. On a deux ans pour en trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour former, non pas d'avoir des gold comme les Sudaf, mais on est faible, on est trop faible et on a tellement souffert, on se fait tordre. Pas la peine d'être génial au niveau des box. Ils ont tapé là où ça fait mal. Chandelle, mêlée, groupé pénétrant.
Comme il y a deux ans. Philippe, réponse de Philippe.
Sur ce que tu dis, je pense que Winnie Antonio, qui a 35 ans.
Mais il n'est pas éternel, Winnie.
Bah oui, mais il était forfait, là, on rappelle.
Oui, il va arrêter après la Coupe du Monde, donc on lui demande de faire du rap. Mais
il va revenir.
Oui, il
va revenir avec La Rochelle et il va revenir avec l'équipe de France parce que des mecs qui font. Ce qu'il faut comprendre à droite, qu'un pilier droit, il faut faire entre 130 et 150 kilos. C'est-à-dire la biomécanique sur l'impact.
On n'est pas 67 millions.
Tu prends
une tonne 2 sur l'impact. Donc c'est vrai que sur les piliers, même si la formation française des piliers elle est bonne, on a beaucoup de piliers gauche. Par contre, c'est vrai qu'au poste de pilier droit, en plus il a des absents, on a 2-3 blessés. On a été en difficulté contre l'Afrique du Sud.
C'est une question de gêne. On n'a pas en France des joueurs de 130 kilos. On a bien dans les îles là, les Tatafou et compagnie. Bah,
voilà, c'est beaucoup de Géorgiens. Qui sont en France. Et sinon, c'est des Iliens, c'est des Iliens français, mais Iliens qui ont ce profil de piliers droits qui sont c'est dans l'ADN.
Bon, et sur les chandelles. Chercher aussi les piliers en Afrique du Sud, hein, Peter de Villiers. Ouais.
Sur les chandelles, on peut revenir en deux ans là. On peut changer de main.
Alors sur les chandelles, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les règles ont changé. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais faire des escortes. C'est-à-dire que tu avais des avants qui pouvaient bloquer les joueurs qui montaient sur les jeux au pied. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se pose des questions, même nous dans les clubs, où on essaye maintenant de trouver des ailiers avec des profils différents et des ailiers très grands. C'est-à-dire que tu peux avoir un ailier petit, costaud, rapide, mais on essaye maintenant de trouver des joueurs.
Après, ils sont pas très grands, les ailiers de l'Afrique du Sud.
Et c'est pour ça que j'allais revenir 2m90, 1m92 pour être très, très bon. Et puis maintenant, on n'attrape plus les ballons à l'ancienne. Il faut attraper les ballons au-dessus de la tête. Et là, on sait que les Irlandais, par contre, sont très forts parce que c'est les sports gaéliques, etc. Donc, ils ont été formés comme cela. Par contre, où tu te poses la question, c'est que les Sud-Africains, les deux ailiers, ils sont tout petits, mais par contre, ils ont une détente incroyable, un timing incroyable. Et puis, nous, ailiers français, notre kiff, c'est de faire un cadrage débordement. Notre kiff, c'est d'avoir le ballon, de faire le raffut.
C'est le French flair.
C'est le style.
C'est le French flair.
Bah oui.
Eux,
leur kiff, c'est de monter sur des quilles et de récupérer les ballons.
Non, mais c'est intéressant.
C'est aussi une philosophie qu'il faut changer. Et je peux t'assurer, moi, là, j'ai repris Provence Rugby. On travaille énormément maintenant les duels aériens, ce qu'on ne faisait pas il y a 5-6 ans, parce que c'est devenu important et primordial dans le rugby de haut niveau.
Non, mais c'est intéressant. Ça pose la question aussi de est-ce qu'on garde l'ADN français? Est-ce qu'il faut se réinventer? Regardez ce que font les autres. On se pose cette question-là dans tous les sports, Marc.
De toute façon, tout le monde regarde tout le monde et tout le monde copie tout le monde. Donc, il y a forcément des zones d'influence qui se mettent en place. Donc, dans le vélo, c'est la même chose. Tout le monde copie tout le monde. Les gains marginaux, on appelle ça. C'est un peu les gains marginaux du rugby.
Exactement. Mais c'est ça. Il y a quelques années, on se moquait des Britanniques de Sky, par exemple. Aujourd'hui, plein de monde reprend les choses dans le travail. Pas tout.
Maintenant, on copie la Visma, les copains de Marc.
Est-ce qu'on a le sentiment, juste rapidement, d'avoir régressé? On se posait la question tout à l'heure par rapport à il y a deux ans face au Sudaf. Ah, il y a deux ans de la prochaine Coupe du Monde.
Il y a deux ans, ça se joue à un point. À rien du tout.
Ah, de l'arbitrage. Ça,
à une décision. Mais là, on n'a pas. Enfin, c'est pas qu'on a régressé, c'est que.
Eux, ils sont devenus plus forts, peut-être?
Alors, eux.
Ils maîtrisent.
Je les trouve plus forts. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont deux, trois joueurs qui sont encore meilleurs qu'auparavant. Leur demi d'ouverture, il sait tout faire. Le demi d'ouverture, il finit à l'arrière, mais il va
vite. C'est pas un immense buteur quand même.
Il laisse
un paquet de points en route quand même. Hein, la défaite aurait été plus, aurait pu être beaucoup plus.
Il laisse surtout 6 points, mais après, attends.
8.
Ouais, mais sa qualité de pied, sa vitesse, il se déplace, il est capable de faire bien jouer, il est capable, s'il y a un espace, d'accélérer. Il sait tout faire. C'est-à-dire que c'est un demi d'ouverture.
Nous, il nous manquait le meilleur joueur du monde. Est-ce que ça aurait quand même eu un impact différent sur le jeu
c'est le meilleur joueur du monde, mais ça fait quand même un petit moment qu'il joue plus. Est-ce qu'il est encore le meilleur joueur du monde?
Qu'est-ce qu'il aurait apporté à l'équipe de France qui fait peut-être que ce scénario n'aurait pas été le même?
Bien sûr, il aurait apporté parce que c'est un joueur exceptionnel, mais la deuxième mi-temps, comme on a été becté devant, dans les rucks, on était dans le reculoir en permanence, un demi de mêlée, c'est compliqué et complexe.
Non, mais les premières 20 minutes où on rate des occasions, est-ce que Antoine Dupont là aurait permis à ce que le ballon il passe derrière les.
Déjà en quart de finale, il y a deux ans, on avait Dupont, mais il n'était pas à 100%, il se remettait de sa blessure et il n'avait pas fait un match brillantissime, pas le meilleur match qu'on lui ait connu.
Non, mais on perd un point.
Mais je ne pense pas que Dupont aurait pu changer la.
Ouais, ça fait partie des questions qu'on a sur WhatsApp 06 12 84 84. Est-ce qu'on n'a pas une Dupont dépendance?
Arrêtez de croire à l'homme providentiel, c'est l'équipe providentielle. On est face à une machine, les Springboks, c'est une machine, et face à une machine comme ça aujourd'hui, tu n'existes plus vraiment, quoi.
Merci Yann de nous avoir appelé au 32-16. On va prendre Xavier, vous êtes nombreux à appeler au 32-16, je le disais ce matin. Salut Xavier.
Salut les GG.
Ton sentiment, toi, il est un peu amer ce matin, notamment autour de notre sélectionneur, c'est ça?
Oui, très honnêtement, excusez-moi, mais on lui a donné des conditions incroyables pour gagner la Coupe du Monde, il est passé à côté. Là, on part sur un nouveau cycle où on voit que on est plus mauvais qu'avant. Enfin, pour moi, moins bon. Il fait des erreurs où il renie notre ADN. Je suis désolé, mais l'équipe de France, c'est pas une équipe qui fait des chandelles. Alors, vous me dites, il y a tous les autres qui font ça. Non. Nous, au Stade Toulousain, on lance pas des quilles. Nous, on fait courir les gros. On fait courir justement toutes ces équipes-là qui misent sur des gros paquets très lourds. On les fait cavaler. Et quand ils sont crevés, eh bien, on vient les crucifier. Il faut pas renier notre ADN. Nous, le jeu à la française, c'est de jouer derrière, d'ouvrir, de cavaler. Et ça, je comprends pas pourquoi on veut aller dessier des joueurs sur leur terrain alors qu'ils l'excellent. Surtout que on n'affronte pas une sélection, on affronte un club. Le 15 des Sud-Africains, c'est une équipe de club. C'est pas une sélection comme nous, où tous les 3-4 matins, on va réunir des gars, où on en a les 3 quarts en plus, qui sont pas les 3 quarts, j'exagère, mais t'en as une moitié qui sont laissés sur le carreau, parce que nous, l'économie du rugby tourne autour du top 14, et malheureusement, ça nous bouffe beaucoup de joueurs pour l'équipe de France quand ils sont blessés. Il y a qu'à voir les piliers droits, vous dites, mais ils sont où? Il y en a 3 qui sont sur la touche. Alors forcément, on n'a quand même pas un réservoir où on en a 25 de dispo, faut pas se leurrer, mais quand on a 3 sur la touche, ça pique.
Et ouais, ça pique effectivement pour le 15 de France et pour Frédéric Gatier.
Le sélectionneur, c'est... Alors on va me dire, quand ça gagne, on peut pas dire que c'est les joueurs, et quand ça perd, c'est le sélectionneur. Mais celui qui sélectionne les joueurs, c'est le sélectionneur. Celui qui fait les tactiques, c'est le sélectionneur.
Et il y avait 9 Toulousains sur les 23 joueurs quand même.
Oui.
Non mais Christophe, est-ce qu'on se pose la question ce matin? Alors évidemment, hein, je vous dis, hein, sur le message, sur le WhatsApp des grandes gueules du sport également, 06 12 424 424, il y a beaucoup de sujets. On sait, hein, il y a 67 millions de sélectionneurs. Hein, Philippe, tu sais, quand tu as été sélectionneur, pouvait-on se passer l'expérience d'Aldrit dans le jeu? Que veut faire Fabien Galthié? Il manque un centre qui amène de la densité. On a manqué d'intelligence. C'est un débat qu'on a ce matin, Chris, sur Galthié, sur les choix de Galthié.
Oui,
Galthié.
Mais après, tout le monde l'attendait au coin du bois. Tout le monde a même.
Il a dit que c'était la meilleure équipe du monde. Il a redit après le match.
Il a un discours qui hérisse le poil des uns et des autres.
Il a redit même à la mi-temps que les Sud-Africains étaient les meilleurs du monde.
Je suis pas sûr qu'un autre sélectionneur aurait réussi à faire mieux. Effectivement, je pense que Galthié. On parlait des adversaires qui rentrent dans la tête hier dans cette même émission, et je pense effectivement que Rassi Erasmus aujourd'hui est entré dans la tête du sélectionneur français et que celui-ci réagit en fonction de ce que l'autre fait, et que comme il est incapable de lire ce que va faire Erasmus, et ben de temps en temps il fait des conneries. Mais je pense pas qu'un autre sélectionneur aurait pu gagner face à ces box là hier soir. Je sais pas, Philippe, si tu avais été aux commandes, est-ce que tu aurais adopté une méthode différente que celle faite par Galthié? Je sais pas.
Non, c'est tellement compliqué et complexe. Et quand tu joues l'Afrique du Sud, alors c'est vrai que le banc, je reviens sur le banc, nous a pas apporté, qu'il aurait pu peut-être garder un ou deux joueurs un peu plus puissants.
Ouais.
Mais bon, tu as été becté par meilleur que toi.
Voilà. Le 15 de France, battu donc par les Springboks hier. On va continuer à en parler tout à l'heure, hein, à 11h30. La tournée d'automne est-elle déjà ratée pour le 15 de France? On va se poser cette question. Il reste encore des matchs face aux Fidji et à l'Australie. Merci Xavier de nous avoir appelé au 32-16. Revenez d'ailleurs, hein, tout à l'heure, les fans du 15 de France à 11h30. Je vous rappelle, Moscato Show, Super Moscato Show demain dès 15h. Il va beaucoup être question, évidemment.
Je crois que je vais aller courir aussi.
Du 15 de France pour écouter ça. dans quelques instants, le zapping, vous allez me dire si on s'en fout pas. Tiens, l'OM est leader de Ligue 1 ce matin. On va en parler dans quelques instants. Et Novak Djokovic gagne, mais ne veut pas aller affronter les meilleurs. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Philippe Saint-André, Sarah Pitkowski, Marc Madiot et Christophe Cessieux. Dans un instant sur le ring, on va parler de Lyon-Paris-Saint-Germain. Ce soir, le choc en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG fait-il moins peur que la saison passée? Votez sur le compte XD GG du sport. On vous attend au 32-16. Tout de suite, les GG, vous me dites, on s'en fout, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. L'OM est leader de Ligue 1 ce matin après son succès 3-0 contre Brest hier. Marc.
On s'en fout pas.
Christophe.
On s'en fout pas.
Sarah.
Bon, je vais passer mon tour.
Philippe.
On s'en fout pas.
Allez, les Marseillais avaient. Bah oui, en plus, Philippe, maintenant, il y a Provence Rugby.
Il a pas le choix. S'il veut rentrer à la maison, il n'a pas le choix.
Donc, j'ai les pneus crevés, là. Ils sont à l'aéroport de Marseille.
Il va nous claquer. Donc,
allez, l'OM.
Les Marseillais, donc le club de cœur de Philippe, avaient besoin de rebondir après la défaite en Ligue des Champions cette semaine contre l'Atalanta. Victoire sans trembler avec des buts signés Angel Gomez, Greenwood sur penalty, Aubameyang. L'OM est leader ex aequo avec Lens, hein, il faut le dire, qui a battu Monaco hier 4-1 à Louis II, et un point d'avance sur le PSG avant Lyon Paris ce soir. Tiens, Roberto De Zerbi apprécie mais attend peut-être plus de ses joueurs.
J'espère tout d'abord que l'équipe sera plus stable, et pour être plus stable, il ne faut pas se concentrer sur les réseaux, sur les blabla, sur ce qui se dit. C'est la beauté aussi de la difficulté de Marseille, parce qu'on est là, premier, on a la meilleure attaque, on a fait 2 victoires d'affilée en Ligue 1, mais il faut déjà qu'on prépare la prochaine tempête. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais ce qui est sûr, c'est que ça risque d'arriver, et si tout le monde est prêt à affronter cela, ce sera beaucoup plus simple.
Et del bello.
Il faut être prêt à affronter les peut-être futures tempêtes. C'est intéressant ce qu'il dit le coach marseillais.
Ah ouais, mais il est bien adapté à la ville de Marseille. Après, je pense que cette année, compte tenu du contexte général, notamment lié au PSG, je pense que Marseille a une opportunité en championnat. Et la Ligue des Champions, ça devrait se terminer assez vite, potentiellement, et ça va peut-être permettre à Marseille de bien se concentrer sur le championnat, d'utiliser toutes ses forces sur ce championnat, et ils peuvent perturber un petit peu l'évolution du classement et être opérationnel et être proche du PSG dans le classement plus longtemps que d'habitude.
Il faut tout miser sur la Ligue 1 peut-être pour l'OM.
Bah, ils vont bientôt plus avoir le choix, de toute façon.
Attendez, ils sont encore dans le coup.
Ça va être compliqué.
C'est compliqué, mais ils sont encore.
Après, si tu mises tout sur la Ligue 1 et que tu te fais taper, parce que avec Marseille, on connaît, ça a toujours été comme ça. Et hier, on se posait la question, c'était De Zerbi risque-t-il gros? Est-ce qu'il va être déjà mis sur la scène?
Mais lui-même est lucide, il sait qu'il y a des tempêtes, il les crée parfois lui-même.
Le lendemain, il gagne 3-0. C'est Marseille, va-t-il être champion de France et doit-il tout miser sur la Ligue 1? C'est les extrêmes, on passe d'un extrême à l'autre dans cette émission et sur l'Olympique de Marseille en général. Mais ça a toujours été comme ça.
C'est la beauté
de l'OM. Ouais, non, mais c'est l'histoire qui ressort.
Mais est-ce que vous pouvez éteindre le micro, Christophe Cessieux, jusqu'à midi,
s'il vous plaît? S'il perd, faut-il virer De Zerbi?
Et puis là, mais on n'a jamais fait ce débat de dire n'importe quoi. Il n'a pas dormi, il dit n'importe quoi. Allez, on zappe. On zappe Christophe aussi. Je m'en fous pas. Novak Djokovic a remporté son 101e titre hier, mais renoncé à participer au ATP Finals. Vous savez, c'est le Masters avec les 8 meilleurs du monde qui débute aujourd'hui. Sarah?
Je m'en fous pas.
Philippe?
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler Sarah.
Je pensais que t'allais redire à l'OM. C'est le mec complètement. Marc?
Je m'en fous pas.
Christophe?
Je ne m'en fous pas.
Alors, à 38 ans, le Serbe a bataillé pendant près de 3 heures pour gagner effectivement ce tournoi à Athènes, le tournoi de sa famille.
Ce n'est qu'un ATP 250.
ATP 250, c'est troisième niveau sur l'importance
mais c'est dire que à quel point il est capable de s'investir pour un tournoi de ce niveau-là.
Victoire contre Musetti, c'était très chaud, 4-6-6-3-7-5. Il a dans la foulée annoncé qu'il renonçait au participer au Masters qui débute aujourd'hui à Turin. Dommage ou normal d'ailleurs, de le voir renoncer au.
Il avait déjà laissé planer le doute sur le fait d'être capable d'enchaîner, mais il faut comprendre la petite histoire. C'est qu'en face, Musetti, il jouait sa place. C'est-à-dire que s'il gagnait, il était au ATP Finals. Et comme il perd, il passe 9e. Et donc c'est Et en fait, pour l'histoire qui est juste incroyable, Djoko se bat comme un lion pour gagner un ATP 250, j'ai envie de dire, dans sa hiérarchie.
Il a déchiré son maillot et tout à la fin.
Il faut comprendre tournoi.
Il y a un vrai problème entre Djoko et la Serbie en ce moment, j'ai l'impression.
Exactement, parce que en fait, sa famille avait organisé à Belgrade ce tournoi qui a été déplacé à Athènes, il faut savoir que la famille Djokovic a un lien particulier avec la Grèce, parce qu'en échappant, ils se sont enfuis lorsqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, ils se sont enfuis et réfugiés en Grèce. Donc il y a un vrai attachement avec la Grèce. Et effectivement, les tensions entre Novak Djokovic et le gouvernement serbe font que la famille a déplacé le tournoi à Belgrade à Athènes. Et c'était la première édition. Donc
il est considéré comme un traître par le gouvernement là-bas, parce qu'il a appuyé les manifestations des lycéens, notamment contre le gouvernement.
Mais le geste, moi j'ai toujours fortement apprécié Djokovic dans les gestes qu'il fait en dehors du tennis. Et là, en recevant le trophée, il annonce à Musetti, vas-y gars, tu vas jouer. Sauf que Musetti,
mais rapidement, en un mot, il est accroché par ce type de joueur aussi. Avant, c'était Alcaraz et Sinner. Là maintenant, Musetti l'accroche.
Mais il est accroché par tout le monde. Et c'est normal. C'est juste normal. Il peut pas. Et d'ailleurs, il pouvait pas tenir Belgrade plus les ATP Finals. Donc il offre sur un plateau au Musetti le fait de jouer les ATP Finals.
Lucky loser là.
Exactement. Qui joue cet après-midi, hein? Il est déjà engagé cet après-midi, Musetti.
Ah ouais, donc ça veut dire que Djoko aurait dû jouer cet après-midi.
Non, c'est demain à 14h, Musetti. Il rentre en liste demain. C'est pas beaucoup quand même. Heureusement, Athènes, c'est pas si loin de Turin, effectivement, pour y aller. Les amis, alors juste, je signale rapidement que Sébastien Ogier a gagné quand même le rallye du Japon. Ce matin, on en avait parlé, Christophe, on avait fait un coup de gueule il y a quelques temps pour dire qu'on n'en parlait pas assez. Il est revenu à 3 points du leader Alfyn Evans, le leader du championnat. Donc, il reste un rallye en Arabie Saoudite et Ogier peut aller chercher un 9e titre mondial.
Voilà,
peut-être.
magnifique Ogier. Et donc égaler Sébastien Loeb.
Pourquoi c'est intéressant.
Il n'a pas la notoriété de Sébastien Loeb.
Loin de là.
On en reparlera certainement. Allez, dans quelques instants, on parle de Lyon-Paris-Saint-Germain avec les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.